Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui encore, il était une fois loi. Oui, on a parlé pas mal d'émissions, d'eux en réalité, de ces oies qui me passionnent depuis que j'ai eu la chance d'assister à un colloque à l'Université de Montpellier consacré aux oiseaux dans l'Antiquité. Et il semblerait que les oies y prennent une grande part de ces oiseaux dans l'Antiquité. Alors, mon interlocutrice aujourd'hui, on va faire connaissance avec elle, c'est Alice Bourgois, j'espère que je prononce bien.
Oui, très bien ça.
Eh bien, je vous salue Alice et donc Nîmes, puisque nous sommes une radio, Radio Alliance Plus localisée à Nîmes. Nîmes vous salue aussi. Alors, nous ne sommes pas dans la même région, nous sommes rencontrés, donc je l'ai dit, à Montpellier. Vous, vous êtes dans le nord de la France.
Eh oui, c'est bien ça. Plus exactement à Amiens, même si j'enseigne à Paris, je vis à Amiens.
D'accord. Oui, on parlait hors antenne justement de cours que vous donnez à Paris, hein, je crois.
C'est cela.
Alors, tout d'abord, commençons par le commencement. Ça vous est venu quand, cette passion pour, alors je ne sais pas s'il faut dire pour l'Antiquité, pour les sciences, pour l'archéozoologie, dont on parlera après. Est-ce que c'est une passion qui vous est venue tôt?
Ah oui, très très tôt. Je n'ai jamais voulu faire un autre métier qu'archéologue. En réalité, si, plus exactement, j'ai voulu faire paléontologue dès la maternelle. Je suis née à la fin des années 80, donc c'était la grande mode des dinosaures à l'époque. Il y en avait partout, dans les dessins animés, dans les émissions pour adultes, pour enfants, enfin là, donc j'ai grandi là-dedans. Et j'ai changé d'avis en sixième. À l'arrivée au collège où j'ai commencé à comprendre parce que mes parents en fait se sont beaucoup préoccupés, m'ont donné beaucoup de livres à lire sur l'histoire comme ça me passionnait, sur l'histoire, sur les premiers hommes, sur les dinosaures, mais aussi sur l'histoire à partir de l'Antiquité justement. Et j'ai fini par comprendre que en France, c'était quand même plus facile de faire de l'archéologie que de la paléontologie. Et effectivement, le programme scolaire au collège accorde beaucoup d'importance aux Grecs, aux Égyptiens, au Moyen-Âge. Et c'est là, effectivement, que je me suis dit, maintenant, je ne deviendrai pas paléontologue, je deviendrai archéologue. Et si vraiment j'avais le choix de toutes les périodes, j'aurais plutôt pris Âge du Fer que Antiquité romaine. Mais là, les hasards de la vie m'ont amené à avoir des expériences, mes premières expériences de fouilles à l'âge de 16 ans, c'était sur un site romain.
Oui, je vois que
et
vous avez été bénévole. Hein.
Devenue...
Oui, vous étiez.
Oui, c'est ça. J'ai commencé bénévolement. J'avais la chance, en fait, là où j'allais à l'école, il y avait un site archéologique dans la même ville. Donc ma mère avait. Qui s'intéressait beaucoup à la culture locale, qui était toujours au courant de tout ce qui se passait dans les associations. Elle avait entendu parler qu'il y avait des fouilles programmées sur ce site et qu'ils acceptaient à partir de 16 ans, puisque elle-même, en fait, elle travaillait en lycée et elle avait vu passer des élèves qui étaient passés sur ce site. Donc, elle s'est renseignée et c'est comme ça que j'ai pu commencer à 16 ans sur un site donc romain. Et de fil en aiguille, j'y suis restée très 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 longtemps et je me suis spécialisée très naturellement dans l'Antiquité romaine. Et après, l'archéozoologie, c'est venu aussi par hasard. C'est-à-dire que sur ce site que je n'ai toujours pas cité, donc c'est le Bois l'Abbé qu'on appelle maintenant un peu Briga suite à la découverte d'une plaque dédicatoire, mais il y avait tout à faire à l'époque où je fouillais en bénévole. Il y avait très peu d'étudiants qui faisaient un sujet de master dessus. Donc, à part la céramique qui était déjà prise, tout le reste était disponible. Et le responsable de l'époque, donc Étienne Dantel, m'a dit, écoute, puisque tu vas entrer en master maintenant, d'histoire et d'archéologie. Si tu veux, tu peux étudier le matériel que tu veux. Et il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ossements. Et je me suis dit, bah, ça va toucher à l'alimentation. Pour le coup, moi, je suis quelqu'un qui est très gourmande. Et je me suis dit, bah, ça peut être sympa de travailler sur la cuisine et ce genre de choses. Et c'est comme ça que je suis venue à faire de l'archéologie. Voilà.
Et oui, alors ça évoque beaucoup de choses pour moi parce que je reviens de Corse où je suis allée sur des sites archéologiques et notamment assister à des fouilles à Filotosa sur un site préhistorique, l'âge de fer justement. Donc ça me ramène à ce beau voyage et nous partageons, vous et moi, vous ne le savez pas, une passion pour la nourriture et la cuisine dans l'Antiquité. Donc c'est pourquoi votre conférence m'avait beaucoup intéressée et vous, effectivement. Effectivement, très tôt, donc, c'est la relation entre l'homme et l'animal qui vous a passionné. Et puis, donc, vos domaines d'intervention sont multiples, hein. Donc, l'alimentation, on l'a dit, les animaux, ça touche aux pratiques religieuses. Et puis, ça essaime sur plusieurs périodes, parce qu'on ne peut pas s'arrêter définitivement à une période. À un moment donné, vous étiez intéressé, je crois, à la Grande Guerre, les animaux dans la Grande Guerre. Donc, il y a toujours ce fil conducteur de la nourriture. Et puis, tout d'un coup, donc, l'archéozoologie. Alors, c'est quoi l'archéozoologie exactement? Quand on est archéozoologue, qu'est-ce qu'on a comme diplôme? Alors, vous avez fait un doctorat, bien entendu. Et comment se passe la journée de travail?
L'archéozoologie, quand on regarde la définition, c'est l'étude des relations entre l'homme et l'animal aux différentes périodes historiques. Mais c'est vraiment une définition très large parce qu'en réalité, l'archéozoologie, c'est déjà c'est une discipline interne à l'archéologie et au sein même de l'archéozoologie, on a des sous-disciplines. Moi, je suis ce qu'on appelle une ostéologue, c'est-à-dire que mon job, c'est de faire de l'anatomie comparée. Lorsqu'on découvre des ossements animaux sur un site archéologique, je vais les examiner pour savoir de quelle espèce il s'agit, de quelle partie anatomique il s'agit. Ensuite, je fais des décomptes et j'obtiens ce qu'on appelle un spectre phonique, c'est-à-dire une liste d'espèces et des quantités d'espèces en nombre de restes et en poids des restes. Et ça me permet effectivement après de faire des projections et d'analyser. Bien sûr, c'est pour ça qu'il y a cette notion de spectre, c'est que on fouille les poubelles de l'histoire, donc on n'a qu'une infime partie de ce qu'on a découvert. Il y a plein, effectivement, le processus archéologique, le fait que ça a passé 2000 ans dans le sol, qu'il y a eu des problèmes de conservation, des fouilles antérieures, des destructions liées aux différentes constructions, fait que voilà, on n'a qu'une image très partielle. C'est un fantôme, en fait, de ce qu'était la faune de l'époque. Mais voilà, et à partir de là, eh bien, on analyse ce qu'on voit et on essaye de comprendre tout un tas de sujets, donc l'élevage, la chasse, les pratiques rituelles. Vous l'avez dit, ça c'est un gros morceau de ma recherche. Ça peut être aussi les animaux qui vivent avec nous sans qu'on les désire. Pendant ma thèse, j'ai eu l'occasion de travailler sur des souris, sur des mulots, sur des petits corvidés qui vivent naturellement, et bien sûr sur les poules et les oies entre autres. Et c'est vrai qu'après, il y a d'autres spécialistes. Par exemple, on a des historiens spécialistes de la question animale. Je pense par exemple à Éric Baraté, qui est historien contemporaniste, et qui est lui aussi spécialiste des relations entre l'homme et l'animal, mais c'est un historien. Mais d'une certaine manière, une forme d'archéozoologie. J'ai des collègues qui sont spécialistes des poissons, d'autres qui sont spécialistes des mollusques, dont les malacologues, et d'autres qui vont être en laboratoire pour faire de l'ADN, pour faire des isotopes, etc. Donc voilà, on a quand même une grande famille
Oui,
au
ça, en
sein
fait,
même
c'est.
d'une sous-famille d'archéologues.
Voilà, parce que l'archéozoologie, elle essaime effectivement dans beaucoup de petites, enfin, de petites disciplines. Vous avez parlé des poissons et des coquillages. Ici, dans notre région, à Nîmes, on s'intéresse beaucoup à l'ichtyologie, effectivement. Donc, vous êtes spécialisé là-dedans, j'imagine, et je l'ai entendu à votre conférence que vous êtes passionné et vos journées sont bien occupées. Alors, c'est des journées, j'imagine, hein, je connais pas grand-chose, à la fois dans des bureaux, sur l'ordinateur et puis sur le terrain.
Je fais très peu de terrain depuis plusieurs années. L'archéozoologie, c'est surtout discipline qui se pratique en laboratoire. Alors après, il faut pas s'imaginer un laboratoire comme un laboratoire de chimie. J'ai fait un petit peu de biologie stricte, hein. Avant, j'ai fait de la microbiologie pendant 2 ans avant d'aller en fac d'histoire, où on a effectivement le laboratoire avec la blouse, les paillasses en faïence, les éprouvettes. Non, quand on dit laboratoire d'archéologie, on va être plus un peu comme dans un musée, avec des tables de travail et le pied à coulisse dans une main, la balance dans l'autre et un ordinateur devant nous. Par contre, je vais très peu sur le terrain depuis des années. On en revoit les archéologues sur le terrain quand on a par exemple des fosses avec des animaux dedans et où il faut une fouille fine et faut l'œil de l'archéologue pour dire bon ben voilà, là il s'est passé ça. J'ai une collègue qui est spécialiste par exemple des épizooties. C'est vrai que c'est intéressant de voir s'il n'y a pas, enfin comment les animaux ont été empilés, est-ce qu'il y avait vraiment une mortalité dense à ce moment-là. Et puis dans les pratiques rituelles aussi, c'est intéressant d'avoir un archéologue sur place qui va vérifier la fosse, est-ce qu'il y a un agencement particulier? Mais sinon, à part dans ce genre de cas, on va jamais sur le terrain. Ni moi, ni la plupart de mes collègues, on va jamais sur le terrain. Et c'est pas tant des journées types que des phases types. On va passer plusieurs semaines ou plusieurs jours sur la table de détermination. Et une fois que c'est fait, on passe effectivement en bureau où on va faire beaucoup de bah, d'ordinateurs. Hein. On fait des tableaux Excel, du Word, pas mal de dessins aussi, hein, du dessin numérique pour représenter ce qu'on a vu. Et puis à la fin, enfin, on rend un rapport, voire une publication. Et parfois, effectivement, ensuite, on va communiquer nos recherches, soit dans des colloques, et puis plus occasionnellement, comme aujourd'hui, dans une radio tout public.
D'accord. Alors donc, je reviens à mon histoire de diplôme. Il y a un diplôme qui s'appelle archéozoologue ou bien c'est l'accumulation de plusieurs diplômes?
Alors, les deux sont possibles en réalité. De plus en plus, on a des diplômes d'archéologie spécialisés en archéozoologie. Il y a plusieurs universités qui développent des cursus comme ça. Donc, historiquement, on avait le Muséum d'histoire naturelle qui l'a toujours, toujours, qui le fait depuis très longtemps. Maintenant, pas rien le fait. Là où j'enseigne
Oui.
actuellement, ils développent ça également. Dans le sud, je sais que ça se fait aussi. Alors, je connais moins le sud de la France, mais pendant longtemps à Dijon aussi, on avait Patrice Méniel qui travaillait là-bas et qui formait beaucoup d'archéologues à Tours. Et puis, à côté de ça, à côté de ces filières spécialisées où il y a vraiment des cours théoriques sur l'archéozoologie, parfois très denses, parfois, bon, c'est couplé à d'autres choses. Et puis, les gens comme moi qui viennent d'université généraliste, où moi, j'ai eu un cursus d'histoire, histoire, alors une licence d'histoire, un master d'archéologie et un doctorat d'archéologie. Et ma spécialisation, elle vient en fait de mes stages pratiques. C'est-à-dire que j'ai fait mon stage de master, mes 2 stages de master, je les ai faits aux Cravaux, à Compiègne, qui est un laboratoire tenu par une association, mais qui entretient un laboratoire d'archéozoologie et un autre d'archéobotanique. Et ensuite, pendant ma thèse, c'est pareil. Moi, ma formation, elle vient surtout de la pratique au contact d'archéozoologues professionnels, donc du CNRS et de l'INRAP, et aussi ben, pour le coup, de l'association aussi, puisqu'ils ont leurs propres salariés. Et donc moi j'ai une formation très pratique, très peu de formation théorique, si ce n'est par moi-même à la lecture d'ouvrages. Ce qui fait que moi ma spécialisation en archéologie, elle n'apparaît que dans ma thèse. Effectivement mon diplôme de doctorat, il y a effectivement marqué archéologue dessus. Sinon mon master, il y a marqué juste histoire et archéologie. Il n'y a pas marqué archéologue.
D'accord. Mais
Voilà. Mais
écoutez,
sinon effectivement ça dépend vraiment des universités. Les universités, elles sont quand même assez libres de faire des cursus sur mesure
oui.
et plusieurs formules sont possibles.
Alors, on va marquer une petite pause musicale. Allez, je vais simplement vous demander, mais alors très juste quelques secondes, est-ce que vous avez beaucoup d'élèves, puisque vous donnez des cours à Paris 1, est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves qui suivent vos traces? Est-ce que c'est une voie qui est en plein développement?
Dans la promotion que j'ai, non, il n'y a pas tant que ça. J'en ai deux qui m'ont demandé des adresses pour des stages, etc. Parce que eux, un garçon et une fille, qui sont intéressés pour se spécialiser en archéologie. Les autres font autre chose. En revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a du moins pour les étudiants que j'ai cette année, il y a un vrai intérêt. C'est-à-dire que même s'ils ne veulent pas se spécialiser là-dedans, ils s'intéressent à la question des relations entre l'homme et l'animal, ils trouvent ça, voilà, ça leur plaît.
Bon, alors pause musicale et après on parle des oies. À tout de suite, Alice.
Il était 5 heures du matin, on avançait dans les marais, couvert de brume. J'avais mon fusil dans les mains, un passereau prenait au loin de l'altitude. Les chiens pressés marchaient devant dans les roseaux, par-dessus l'étang. Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Elles s'en allaient vers le midi, la Méditerranée. Un vol de perdreaux par-dessus les champs montait dans les nuages. La forêt chantait, le soleil brillait.
Alors, Antiquissimo, il était une fois l'oie, enfin il était 3 fois l'oie, puisque c'est la 3e émission que je consacre à ces oiseaux. Alors, le terme oie, dans l'Antiquité, il est très fréquent, c'est Anseres, mais c'est un terme un peu générique. Et j'aimerais que vous me disiez ce que j'ai entendu l'autre fois dans la conférence, c'est-à-dire comment dans votre... région d'Amiens, vous avez été, je ne peux pas dire en contact, mais bon, presque, avec ces oiseaux. Oiseaux sauvages, oiseaux domestiques, la question aussi, la frontière, elle est difficile à établir.
Tout à fait. Alors, ce n'est pas exactement Amiens, c'est à Vandecapelle qui est à mi-chemin entre Amiens et Beauvais, où il y a un site romain d'une agglomération secondaire. Et le hasard a voulu que sur un secteur qui a révélé beaucoup de figurines en terre cuite de déesses, pas que, mais et de petits animaux et de petits soldats, il y avait aussi beaucoup de volailles, enfin, quantité anormalement élevée, et moitié-moitié poules et moitié oies. Ça, c'est assez rare finalement. Les volailles sont quand même secondaires et surtout l'oie. Hein, on sait assez peu de choses archéologiquement parlant des oies romaines. Les textes, il y a beaucoup de mythologie autour. Hein,
Mais oui,
on
puisqu'elles
pense
sont
aux
les
oies du Nord.
gardiennes, voilà, c'est ça, les gardiennes du Capitole.
Voilà, c'est ça. Mais finalement, archéologiquement parlant, il n'y a pas grand-chose en fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Elles sont anecdotiques par-ci par-là. Et puis, on n'a jamais eu l'occasion de travailler là-dessus. Et bon, bah moi, face à ce site-là, j'avais élaboré l'idée que c'était peut-être en lien avec un culte féminin, puisqu'il y avait les figurines à côté. Et j'ai approfondi la question uniquement parce que un de mes collègues proches, Colin Duval, a eu un cas encore plus extraordinaire à Meaux. Donc en région parisienne, et où lui, l'oie, elle est en tête du spectre phonique, voire éventuellement en seconde position derrière le cochon, mais il a des quantités d'oies qui n'ont jamais été vues ailleurs, mais vraiment jamais vues. Et comme il savait que j'avais un peu travaillé sur Vandecapelle, sur la question, que j'avais fait un premier point bibliographique, eh bien, on a décidé un premier article tous les deux en commun pour faire un point synthétique sur finalement. Quelle est la place de l'oie dans la société romaine du nord de la Gaule? Parce que c'est notre champ d'étude, c'est le nord de la Gaule à lui comme à moi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en faisant des comparaisons, on s'est rendu compte que finalement, l'oie est plus importante dans le nord de la Gaule, même si c'est très discret, hein, mais on voit bien que dans les villes, dans certains sites comme Vandecapelle, comme Meaux, l'oie a une importance qu'on ne retrouve pas ni dans le sud de la Gaule, ni en Angleterre, enfin, ni dans l'actuelle Belgique, mais donc dans les provinces type Germanie. Et c'est quelque chose d'assez unique dans le nord de la Gaule et on actuellement on ne comprend pas pourquoi. C'est-à-dire c'est une spécificité régionale.
Et alors donc, confronté à ce nombre, en fait, donc vous êtes attelé à la tâche, et quelles ont été donc vos découvertes concernant ces oies? et vos hypothèses aussi.
Mon hypothèse première, c'était qu'effectivement, on était sur quelque chose qui allait être lié à un culte particulier. Parce que ce soit à Meaux ou à Vandecapi, il y a des indices d'activité rituelle qui pourraient effectivement être liés à des divinités féminines. L'interprétation romana fait que c'est difficile d'avoir le nom de la déesse ou des déesses, mais on est toujours sur cette idée de déesse mère, où ça peut être donc à la fois Junon, Isis, Vénus, enfin Magna Mater, donc tout ce qui converge vers la fécondité, vers la maternité. Cependant, quand j'ai commencé à regarder sur d'autres sites archéologiques, d'autres sanctuaires dédiés à ces déesses, en fait, on a des poules, on a des poules, puis vraiment des poules, hein, des femelles, des galus-galus femelles, mais des oies, il n'y en a quasiment pas. Éventuellement, on va avoir des colombes, donc des pigeons, mais on ne va pas avoir d'oies. Elles vont être quand même très, très secondaires par rapport à d'autres oiseaux. Il n'y a vraiment que dans cette partie nord de la France où on va avoir des quantités d'oies plus importantes dans certains contextes, qui vont surtout être donc quelques sanctuaires, mais pas tant que ça finalement, parce qu'en gros, il n'y a que le sanctuaire de Meaux et celui de Vandecapi pour l'instant. Par contre, dans les villes aussi, effectivement, en Amiens, on a des zones où les oies sont aussi très importantes, mais là on est en contexte domestique. On est sur des domus un peu pas luxueuses, mais
Des
quand même
domus
riches. Et
ou
là,
des villas? C'est des domus ou...
Non, c'est des domus. Là, on est en zone urbaine,
En
vraiment.
zone urbaine, d'accord.
On ne retrouve pas, ça c'est surtout Colin qui a travaillé qui a fait le point synthétique là-dessus, mais en villa, dans les zones rurales, on n'a pas ces quantités d'oies. Importante. Je crois qu'il y a une seule villa où il a vu quelque chose de plus. Ouais, c'est ça. Il n'y a qu'une seule villa où on avait plus de 30 d'oies, mais c'est par rapport au nombre de sites urbains où on avait effectivement des quantités d'oies plus importantes que la moyenne, c'est pas comparable. Donc il y a vraiment un phénomène urbain et plus secondairement culturel. Ce qui est marrant parce que pour le coup, moi, j'étais vraiment partie sur une idée, ah, oh, c'est culturel, c'est... Et en fait, non, pas du tout. Quand on regarde vraiment, il y a effectivement ces deux sanctuaires qui semblent effectivement dédiés à des divinités féminines avec beaucoup d'oies, mais sinon, c'est surtout dans des zones urbaines riches, mais des zones urbaines plutôt effectivement du nord de la Gaule, parce que on retrouve pas dans d'autres zones urbaines, d'autres régions, même dans les zones riches, on n'arrive pas encore à trouver d'exemples. Bon, après, on n'est qu'au début, hein. On n'est qu'au début de la synthèse, donc il faut qu'on continue de chercher. Mais c'était l'occasion d'ailleurs du colloque de Montpellier, hein. C'était
Oui.
aussi de poser la question aux collègues, de savoir si quelqu'un d'autre que nous avait vu quelque chose.
Et est-ce qu'on peut se hasarder à dire, enfin à supposer que ce qui serait de l'ordre culturel, donc plutôt dans la ruralité, et puis dans les villes, peut-être l'élevage pour manger, est-ce que ce serait ça ou pas du tout?
Non, je pense pas parce que les sanctuaires eux-mêmes sont des sanctuaires urbains. Donc, il y a vraiment un lien avec l'urbanité, ce qui est et c'est étrange par contre, parce que sur les autres espèces, par exemple le cochon ou la volaille, on se rend compte que les informations, enfin les recherches récentes montrent que les animaux sont surtout élevés en campagne. Il n'y a pas d'élevage urbain parce que c'est une hypothèse. Il y en a, par exemple, au Moyen-Âge, de l'élevage urbain, notamment les élevages de cochons, on sait qu'il y en a. Là, on n'arrive pas à trouver de traces réelles parce que à chaque fois qu'il y a des analyses qui sont faites sur l'alimentation, ce genre de choses, on voit bien que, par exemple, même les cochons sont nourris avec des plantes, avec des glands, avec des plantes qui viennent de la ruralité. Donc, ce sont des animaux qui sont élevés dans les campagnes et qui sont amenés ensuite en ville pour être tuer et manger dans les villes. Où il y a des plateformes commerciales aussi dans les villes. Et les oies, on ne sait pas actuellement, mais c'est vrai que si c'était la même logique que pour les autres espèces, on serait sur de l'élevage rural, puis effectivement une consommation urbaine. Là, malheureusement, on n'est qu'au début, donc on peut pas répondre à cette question-là. Peut-être qu'on est face aux premiers élevages urbains effectifs, mais peut-être chercher dans les ce qu'on appelle les zones suburbaines, c'est-à-dire la banlieue en fait, la zone tampon entre vraiment la zone urbaine qui est délimitée par en plus à la sortie où on a les cimetières et effectivement la zone immédiatement après où en général les fermes elles sont plus rapprochées les unes des autres, plus vastes et ensuite quand on s'éloigne dans la campagne c'est plus clairsemé, mais il y a cette zone suburbaine qui effectivement est peu étudiée encore aujourd'hui en archéologie dans tous les domaines hein. Ça commence à émerger, il y a des problématiques qui commencent à émerger, peut-être cibler dans ces zones-là, voir s'il n'y a pas effectivement des zones privilégiées pour l'élevage des animaux et notamment des volailles.
Alors, quelque chose qui m'avait aussi fasciné lors de votre communication, c'est cette idée que les Romains auraient observé les migrations d'oies et les auraient peut-être capturées.
C'est pas propre aux Romains.
Oui, ça, vous aviez expliqué que c'était très vieux, ça. Oui.
Ouais. Les Romains, oui. Mais ça date même de l'âge des âges des métaux. Les Germains. Alors ça, c'est plus les populations effectivement de l'est de l'Europe et un peu en Germanie, où effectivement là-bas et au En Royaume-Uni également, au Royaume-Uni aux âges des métaux, ils observent effectivement les vols des oiseaux et ils arrivent effectivement à les capturer des oies sauvages pour compléter effectivement la basse-cour domestique, sachant que ça commence même avant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée, on veut des oies. Et comme elles ne sont pas encore domestiquées ou qu'on n'en a pas encore, eh bien on va aller effectivement capturer des oies sauvages qu'on va ensuite garder en captivité un certain temps. En Gaule, j'avoue que moi, pour la période que j'étudie, même si, encore une fois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est difficile de différencier les espèces sauvages des espèces domestiques, vraisemblablement, chez les Romains, ils ont quand même une grande maîtrise de la basse-cour. On le voit sur d'autres animaux. C'est probablement des animaux vraiment domestiques, domestiques. Mais un peu comme pour les pigeons, c'est-à-dire qu'il y a les deux populations se croisent et s'acclimatent bien l'une à
Oui,
l'autre. Bon,
on imagine bien.
voilà.
Eh bien, Alice, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et encore une fois, on n'a qu'une envie, c'est d'en savoir plus. Alors, peut-être une autre fois, vous nous en expliquerez davantage. Je vous remercie déjà beaucoup et je vous dis bon courage pour vos cours.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.